souffle court sous tes mèches légères. Le feu a déjà pris.
Il est 6h à Paris, 4h en temps universel. Une demi-heure d'information. Bonjour Marion Cazanov.
Bonjour Arthur Ponchelet, bonjour à tous. Historien de génie résistant pendant la Seconde Guerre mondiale avant d'être fusillé, Marc Bloch entre aujourd'hui au Panthéon en France avec son épouse Simone Vidal. La cérémonie sera présidée par Emmanuel Macron. C'était il y a 10 ans, jour pour jour, les Britanniques votaient oui à la sortie de l'Union européenne. À la veille de cet anniversaire, le Premier ministre britannique Keir Starmer a annoncé sa démission. Lui qui était pour un rapprochement avec Bruxelles. Bruxelles se questionne désormais sur l'avenir de ses relations avec Londres. Malgré les avancées dans leur pourparlers, il y a toujours des dissonances entre l'Iran et les États-Unis, notamment sur le dossier du nucléaire iranien. On va le voir dans ce journal. En Centrafrique, la suite du procès de l'ex-président François Bozizé, jugé pour de présumés crimes contre l'humanité. La vague de chaleur en Europe. Les hôpitaux en France observent un afflux de patients, alors que certains hôpitaux ne sont pas équipés de climatisation. Et puis en football, la Norvège et la France qualifiées en 16e de finale de la Coupe du Monde. Les Bleus ont battu pour cela l'Irak 3-0 dans un match peu ordinaire, interrompu par l'orage. La Norvège, elle, s'en sort 3-2 contre le Sénégal. La France rend aujourd'hui le plus grand des hommages à Marc Bloch. L'historien et résistant français entre aujourd'hui avec sa femme Simone Vidal au Panthéon, temple des illustres de la République française. Ce sera la 6e fois qu'une panthéonisation est organisée sous la présidence d'Emmanuel Macron. Il sera présent pour la cérémonie. Une cérémonie qui consacrera l'engagement de cet historien qui a révolutionné sa discipline et défendu son pays contre le nazisme. Baptiste Coulon.
Marc Bloch, c'est une vie à défendre la République. 4 années au front de la Première Guerre mondiale, dont il revient décoré de la Croix de Guerre. Officier remarquable, écrivent ses supérieurs. Volontairement, il s'engage dans la Seconde Guerre mondiale. Mais horrifié par la débâcle militaire française de juin 40 face aux Allemands, il délaisse les armes et prend la plume. L'historien écrit sur les causes de cette déroute, qu'il va chercher dans la faillite morale des élites de l'époque, dans le défaitisme du commandement militaire. Nos chefs ne se sont pas laissés battre, ils ont estimé très tôt naturel d'être battu. Avec cette analyse, l'étrange défaite publiée après sa mort, Marc Bloch révolutionne l'écriture de l'histoire. À ses yeux, elle n'est pas une succession de dates ou de batailles militaires, elle est aussi façonnée par des processus économiques et sociaux, une rupture analytique à l'époque qui fait aujourd'hui encore autorité. Quand il reprend les armes en 1943, c'est dans la résistance, alarmée par les lois antisémites de son pays, la France, qui désormais le rejette parce que juif. Il sera finalement arrêté puis fusillé par la Gestapo en juin 1944.
Marc Bloch sera donc panthéonisé avec sa femme Simone Vidal. Elle avait joué un rôle important dans les recherches de son mari. Elle avait aussi été infirmière volontaire pendant les deux guerres. On suivra cette entrée au Panthéon ce soir dans une édition spéciale sur RFI de 19h10 à 20h, heure de Paris. Le Royaume-Uni se cherche un nouveau Premier ministre. Hier, Keir Starmer a donné sa démission, fragilisée ces dernières semaines jusque dans son propre parti. Le Labour lui cherche un successeur et un favori se dessine déjà. Andy Burnham, le maire de Manchester, s'il s'affiche pro-européen, il ne veut pas pour autant revenir sur le Brexit. La sortie de l'Union européenne, c'était il y a 10 ans, jour pour jour. Alors après le départ de Keir Starmer, l'Union européenne se demande désormais comment évoluera sa relation avec Londres. Pierre Benazet.
Keir Starmer avait beaucoup misé sur la tenue du sommet euro-britannique cet été à Bruxelles, mais ce sommet du 22 juillet est désormais en suspens. La date n'avait été confirmée que la semaine dernière, après des mois de tergiversations. L'Union européenne affirme être en train de réévaluer sa tenue. Keir Starmer avait organisé un premier sommet euro-britannique à Londres en mai 2025, mais les Européens n'ont cessé de repousser la deuxième édition tant que le Royaume-Uni n'abandonnait pas ses lignes rouges, par exemple sur les normes agricoles ou les relations économiques et commerciales. À Bruxelles, le Brexit est toujours vécu comme une tragédie, mais tous n'en tirent pas la même conclusion. Certains préconisent le retour du Royaume-Uni dans le marché unique. D'autres estiment au contraire que l'Union doit exclusivement réfléchir à l'intégration de l'Est de l'Europe. Andy Burnham était un opposant au Brexit il y a 10 ans, mais pour lui, rien ne garantit que son arrivée à Downing Street serait le signe d'une lune de miel euro-britannique, tant l'Europe est un sujet politiquement toxique, puisque Keir Starmer lui-même refusait le marché unique, la liberté de mouvement ou l'union douanière. Pierre Benazet, Bruxelles. RFI.
Je le disais, la démission de Keir Starmer hier intervenait à la veille des 10 ans du Brexit. On revient sur cet anniversaire après ce journal. Keir Starmer, dont l'action a été saluée hier par les dirigeants ukrainiens, français, canadiens. Donald Trump, le président américain, lui parle d'un ami tout en lui reprochant un manque de soutien sur la guerre en Iran. Donald Trump qui s'exprime justement sur l'Iran, sur les négociations en cours pour mettre fin au conflit. Ça se passe très bien en ce qui concerne le détroit d'Ormuz, s'est félicité le président américain. Lors d'une première session de pourparlers dimanche en Suisse, les deux parties se sont entendues sur un mécanisme pour sécuriser ce passage stratégique. Mais ce matin, l'Iran affirme qu'il restera administré par l'Iran. La situation ne reviendra jamais à ce qu'elle était avant la guerre. Sur le dossier du nucléaire iranien, le vice-président américain parle de bases solides. Selon J.D. Vance, l'Iran a accepté le retour des inspecteurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique sur son sol. Mais ce n'est pas tout à fait de cette manière que l'Iran le présente, Guilhem Deltey.
Après les déclarations de J.D. Vance, l'Iran a bien confirmé qu'il allait coopérer avec l'Agence internationale de l'énergie atomique. Mais pour Téhéran, il ne s'agit pas d'un changement de politique, mais de la continuation de celle menée actuellement. Les interactions avec l'AIEA se feront conformément aux autorisations de l'Assemblée consultative islamique et aux décisions du Conseil suprême de sécurité nationale, a précisé le porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Et la précision est lourde de sens. L'Assemblée consultative islamique, c'est le Parlement qui a voté il y a tout juste un an à la suite de la première guerre lancée par Israël et les États-Unis contre l'Iran, une loi suspendant la coopération avec l'AIEA. Tout travail avec l'agence onusienne nécessite désormais une dérogation expresse du Conseil suprême de sécurité nationale. Et depuis un an, celui-ci n'a autorisé que des inspections des sites nucléaires les moins controversés. Téhéran se défend donc d'avoir fait une grande concession au vice-président états-unien. Et J.D. Vance s'est finalement montré plus prudent. On ne peut pas se fier aux paroles des gens, il faut se fier à ce qu'ils font réellement, a-t-il déclaré au moment de quitter la Suisse.
En tout cas, après ces discussions sur le nucléaire, les États-Unis ont suspendu leurs sanctions sur le pétrole iranien pour une durée de 2 mois. Sur le Liban, l'Iran et les États-Unis se sont entendus pour mettre en place une cellule de gestion des conflits. Si le pays connaît une accalmie depuis dimanche, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou répète que son armée restera dans le sud, qu'elle a une liberté d'action totale pour neutraliser toute menace dans la région. Depuis le mois de mars, les affrontements entre Israël et le Hezbollah ont détruit 11 000 bâtiments et fait près d'1,4 milliard de dollars de dégâts au Liban. C'est le constat d'une étude du PNUD, le programme des Nations Unies pour le développement, et du CNRS, le Conseil National de la Recherche Scientifique, conseil lié au gouvernement libanais. On est en direct de Beyrouth pour revenir sur ces pourparlers dans une heure. RFI, 5h08 à Bangui, en République centrafricaine. Le procès de François Bozizé se poursuit devant la Cour pénale spéciale. L'ancien président est jugé depuis le 16 juin pour de présumés crimes contre l'humanité. Entre 2019 et 2013, à la prison civile et au camp militaire de Bossembélé. En exil en Guinée-Bissau, l'ancien chef de l'État est jugé par contumace aux côtés de 3 anciens responsables militaires qui sont eux présents devant la juridiction. Rolf-Steve Domialeux a rencontré des victimes et des témoins qui espèrent une condamnation pour ses responsables.
Assis dans la salle d'audience, Jean-Pierre, ancien détenu de Bossembélé, suit avec attention les débats. Plus de 10 ans après les faits, les souvenirs demeurent douloureux.
Mon arrestation a été arbitraire. Pendant plusieurs mois, nous avons vécu dans des conditions inhumaines. Nous étions plusieurs centaines de victimes à être battues et torturées. Nous ne mangeons qu'une fois par semaine. Je suis tombé malade sans recevoir de soins. J'ai vu plusieurs détenus mourir dans les cellules. Aujourd'hui, je fonde beaucoup d'espoir sur ce jugement.
Vrai jugement qui audience en l'air.
Comme lui, de nombreuses victimes espèrent que les audiences permettront d'établir les responsabilités de chacun. Marie, dont un proche est décédé après une détention à Bossembélé, attend beaucoup de cette procédure judiciaire.
Tout se paye ici-bas. Nous avons souffert pendant des années dans le silence. Mon frère n'est jamais revenu de sa détention. Nous ne cherchons pas la vengeance. Nous voulons simplement que ceux qui ont causé ces souffrances soient jugés et condamnés. La justice doit être rendue pour les victimes et pour les générations futures. Nous attendons vivement l'issue de ce procès.
La Cour pénale spéciale, où siègent des magistrats centrafricains et internationaux, a été créée pour juger les crimes graves commis en République centrafricaine depuis 2003. Le procès se poursuit ce mardi avec l'ouverture des débats contradictoires et l'audition d'un témoin. Rolf-Steve Domialeux, Bangui, RFI.
L'Europe n'en a pas fini avec la canicule. La température continue de monter aujourd'hui. Cette vague de chaleur est particulièrement étouffante en France. 54 départements sont placés en vigilance rouge aujourd'hui et les services d'urgence sont en première ligne. Les hôpitaux observent un afflux de patients, de personnes âgées surtout, qui souffrent donc de cette canicule. Reportage à Paris d'Alice Froussard.
Saint-Louis, garde infernale.
À chaque épisode de canicule, c'est le même rituel. Une hausse des appels au SAMU, une augmentation de la fréquentation des urgences avec des patients tous très différents. Le professeur Philippe Juvin est le chef du service des urgences de l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris.
On a eu le jeune qui travaille dans un milieu fermé où il fait très chaud et il arrive parce qu'il fait un coup de chaleur et on récupère, il a 40 ou 41 degrés de température, donc des hyperthermies très sévères. Et puis vous avez les patients âgés. Ça c'est malheureusement très fréquent, et qui vivent isolés. Ça fait 2-3 jours qu'ils ne boivent pas ou boivent mal, et ils arrivent à la fois déshydratés et insuffisants cardiaques.
Ici, la salle d'attente des urgences est climatisée, tout comme les chambres des patients, elles sont fraîches.
Ce n'est pas le cas de tous les hôpitaux en France. Il y a des hôpitaux en France où même les certaines réanimations ne sont pas climatisées, là où on n'a pas progressé sur la climatisation des bâtiments. Et donc on voit bien qu'on est très en retard.
Surtout, il y a la canicule à proprement parler, mais aussi tout ce qui en découle, poursuit le chef de service. Quand il fait chaud, les gens veulent se baigner.
Les jeunes savent moins nager qu'il y a 20 ans, et donc on a des noyades.
Quant aux décompensations des maladies chroniques, elles risquent de s'accélérer dès les prochains jours. Les effets de la canicule arrivent généralement 5 à 10 jours après.
Alice Froussard. Ce matin, le Premier ministre Sébastien Lecornu présidera, lui, une cellule de crise pour parler de cet épisode de canicule. Hier, la ministre de la Santé, Stéphanie Rist, a fait état d'une augmentation de près de 60% du nombre d'appels depuis dimanche concernant ces fortes chaleurs. Le Premier ministre français recevait aussi hier un rapport très attendu sur l'affaire Liana. Cette collégienne de 11 ans a été violée puis tuée. C'était le 4 juin dernier. L'unique suspect était déjà visé par des signalements, des plaintes pour viol, pour agression sexuelle. Le rapport remis à Sébastien Lecornu pointe une série d'erreurs individuelles dans la chaîne de la justice. La nuit a été courte pour les supporters français. Pour ceux qui sont allés au bout du match France-Irak à la Coupe du Monde de football, victoire 3-0 pour les Bleus, qui se qualifient pour les 16e de finale. Un match donc qui s'est terminé bien tard, un peu avant 3h du matin, heure de Paris, en raison d'une interruption à cause des orages dans le ciel de Philadelphie. Une soirée donc pas comme les autres, nous dit le défenseur français Jules Koundé.
On s'est adapté, c'est des choses qui sont indépendantes de notre volonté, donc il fallait juste rester concentré parce qu'on savait que l'équipe d'Irak allait revenir aussi avec beaucoup d'envie. C'était presque un peu un nouveau match, donc je pense qu'on a été très bien sur ce plan-là. On est rentré dans la deuxième mi-temps avec les mêmes intentions, de l'intensité, la volonté de faire mal, de créer des occasions et d'aller marquer des buts. Je pense qu'on va monter en puissance petit à petit, mais c'était un bon match.
Jules Koundé avec Frédéric Suto. Plus tard, c'est la Norvège dans le même groupe qui s'est qualifiée pour les 16e de finale en battant le Sénégal 3-2. Les Lions de la Teranga obligés d'obtenir une large victoire contre l'Irak vendredi s'ils veulent eux aussi se qualifier. À noter aussi la qualification de l'Argentine pour le prochain tour après sa victoire 2-0 contre l'Autriche. La Jordanie et l'Algérie s'affrontent en ce moment. La Jordanie mène pour l'instant 1-0. RFI, 6h13 à Paris. On reste ensemble encore une petite vingtaine de minutes. Et on revient sur les 10 ans du Brexit, d'abord dans le reportage international dans une ancienne cité minière qui a largement voté pour la sortie de l'Union européenne et qu'il regrette aujourd'hui, du moins qui constate que ça n'a pas du tout aidé à combattre le chômage. On sera aussi à Belfast, l'Irlande du Nord avait voté contre le Brexit, mais aujourd'hui la région est troublée par des mouvements anti-immigration. Nos invités culture signent une bande dessinée consacrée à la guerre civile libanaise plongée dans une Beyrouth assiégée par l'armée israélienne, c'était en 1982. À suivre également le conseil santé, la musique avec le choix de nos programmateurs avant le retour de l'actualité africaine. Royaume-Uni, après la démission du Premier ministre Keir Starmer, trop fragilisé, son parti, le Labour, travaille à sa succession. C'est Andy Burnham, le maire de Manchester, qui devrait le remplacer à Downing Street. S'il s'affiche pro-européen, il exclut toutefois de revenir sur le Brexit. Le Brexit, c'était il y a 10 ans, jour pour jour, la sortie du pays de l'Union européenne. 56% des Britanniques regrettent aujourd'hui ce choix, selon un sondage. Et c'est le cas notamment dans le nord de l'Angleterre et du pays de Galles, un bassin minier qui faisait la fierté de la région avant sa désindustrialisation. Ces mineurs accusaient l'Union européenne d'être responsable de leur déclassement, mais aujourd'hui, les conséquences du Brexit ont aggravé le chômage. Reportage d'Emeline Vin à Durham, capitale minière anglaise. Yeah.
Un hémicycle avec 300 sièges en bois, une scène de hauts vitraux.
Worn out places, worn out faces. Bright and early for the daily races. Going nowhere, going nowhere. Their tears are filling up their glasses. No expression, no expression. I wanna drown my sorrow. No tomorrow, no tomorrow. And I find it kinda funny, I find it kinda sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very mad world. Mad world. Children waiting for the day they feel good. Happy birthday, happy birthday.
Techniquement, il est très facile d'émettre en modulation de fréquence. Il faut une antenne bien placée, un émetteur, un micro, un casque et un tourne-disque. Le problème, c'est que si tout le monde peut faire de la radio, il n'y a pas techniquement de place pour tous sur la bande FM.
Vous écoutez Principe Actif.
Vous écoutez Principe Actif à Évreux, 102.4. Dans le sud de l'Eure, 95.9.
Principe Actif.
Principe Actif, le mix des cultures.
Logique pour un bête de cave, la technique sans le texte c'est comme une fille bandante à tête de trave. Le rap un lieu commun comme un acteur de cul imberbe. Plus d'hypocrite que d'antisémite à Nuremberg. Les mecs s'inventent des vies, finissent par y croire, c'est quasi pire. Sont plus vraiment eux-mêmes comme le mec dans Casimir.
je viens faire tomber vos putains de trous par 12. Tape dans le tas, façon sidaïque dans une partouze. À force d'être transparent, ça vous rend l'esprit opaque. T'as pas lu Orwell, mais tu rappes comme en 84. Les moralistes sont encore plus chiants que ce que je pensais. Je préfère Booba à tous les démagos du rap français. Ces gros mythos, ça joue anti-système et prise de risque. Fini chez Ruquier pour fourguer quelques disques. Ton style de merde vise le bras comme un avion qui se crache. J'ai honte pour toi, on dirait deux mauvais rappeurs qui se clashent. Le mauvais goût domine, du coup y'a des talents qui se gâchent. Et sur YouTube, je ferais moins de vues qu'un chat qui scratch. Ton style de merde vise le bras comme un avion qui se crache. J'ai honte pour toi, on dirait deux mauvais rappeurs qui se clashent. Le mauvais goût domine, du coup y'a des talents qui se gâchent. Et sur YouTube, je ferais moins de vues qu'un chat qui scratch. Tes textes sont des bandes de connes, donc je nique ton verbe. Je bois pas d'alcool, mais quand j'entends ton flow, pique en bière. J'ai pas percé, je suis déjà au-dessus. Voilà le drame, à l'aise comme un queutard, prof de gym dans une prison pour femmes. Aucun projet de carrière comme un tolard à perpète. Ne fais qu'un avec le rap, ne sépare pas le joie, t'es la serpette. Et là ça pète, genre une obèse qu'une mini joue boudine. Tu veux le nom de mon MC préféré, Bakounine. Aujourd'hui y'a plus que les esclaves qu'on n'achève pas, et quelques gars comme nous que l'on n'achète pas. Techniquement j'ai rien à perdre sinon quelques com. Les vrais savent que Lucho Bukowski pète le chrome. T'as pas d'impact comme une baston de hippie art des choix. Mes potes sont les derniers représentants d'un art déchu. Je viens plier ça discret comme un bar à pute liégeois. Promettez au mic, je fais pleuvoir un putain de feu grégeois. Ton style de merde vise le bras comme un avion qui se crache. J'ai honte pour toi, on dirait deux mauvais rappeurs qui se clashent. Le mauvais goût domine, du coup y'a des talents qui se gâchent. Et sur YouTube je ferais moins de vues qu'un chat qui scratch. Ton style de merde vise le bras comme un avion qui se crache. J'ai honte pour toi, on dirait deux mauvais rappeurs qui se clashent. Le mauvais goût domine, du coup y'a des talents qui se gâchent. Et sur YouTube je ferais moins de vues qu'un chat qui scratch.